Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nos limites. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cyberédu avec Olivier Levillain.
Bonjour.
Et donc, pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Chauveur.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Alors, Olivier Levillain, je suis responsable du centre de formation à la SSI à l'ANSSI. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les laboratoires de l'ANSSI, sur des aspects plutôt système au début, et puis réseau ensuite. Et en parallèle, je fais une thèse que je soutiendrai le 23 septembre sur TLS.
Alors, cyberédu, quelle est l'origine de la démarche ?
Alors l'origine de la démarche, c'est que c'est très bien d'avoir des spécialistes en sécurité informatique pour résoudre des problèmes, corriger des bugs, mais on se rend aussi compte que la démarche a ses limites, puisque si face à un spécialiste en sécurité, on a une centaine de développeurs qui font n'importe quoi, il va être un petit peu limité dans son action. L'idée de Cyberédu, c'est de sensibiliser l'ensemble des informaticiens de demain à un certain nombre d'aspects de sécurité pour qu'ils soient capables de ne pas introduire des bugs au départ. Alors, on sait bien qu'on va pas en faire des spécialistes de sécurité, mais l'objectif, c'est quand même de les sensibiliser. Donc, un des exemples qu'on donne souvent quand on parle de Cyberédu, c'est de se dire qu'on aimerait bien qu'un développeur sache ce que sont les failles standards, un buffer overflow par exemple. L'autre exemple qu'on donne aussi souvent, c'est on aimerait bien que un administrateur réseau sache qu'on peut changer son adresse MAC et que ça n'est pas compliqué.
Alors dans le même ordre d'idée, hein, retour d'expérience vécue, ce serait bien qu'un DSI dans une banque sache qu'un disque dur qui n'est pas chiffré peut être lu. Parce que moi, on me l'a fait. Hein, « Ah mais non, je comprends pas, j'ai mis un mot de passe. Non, vous pouvez pas lire mon disque. » « Bah si, sous Linux, là, on peut lire votre disque. » Et le mec, il est DSI et il y croit pas et il remet en cause. Donc effectivement, il y a un lourd chemin à faire au niveau enseignement.
Mais Cyberédu, ça s'adresse uniquement à la formation initiale.
Alors oui, Cyberédu, l'objectif c'était effectivement de s'intéresser à la formation initiale. Et pour cela, en fait, on s'est lancé un petit peu dans plusieurs axes. Et le premier, ça a été de proposer des supports de cours aux enseignants du supérieur en informatique. Le deuxième, ça a été de proposer des colloques, des séminaires auxquels on invite les enseignants du supérieur en informatique pour discuter un petit peu de la démarche, de ce dont ils peuvent parler. Et puis le troisième, c'est monter une association pour pérenniser un petit peu cette action. Alors je pense qu'on va y revenir un petit peu dans la suite de l'émission. Et un exemple, moi, qui m'épate toujours, c'est que les enseignants en informatique avec qui on discute de ces sujets-là connaissent bien entendu les éléments dont on parle. Ils savent très bien qu'on peut sniffer une capture réseau et que si elle est en clair, on peut récupérer des mots de passe. Mais c'est vrai qu'ils ne pensent pas forcément en parler à leurs élèves parce que c'est pas directement leur cours. Et donc c'est aussi pour ça que on a échangé beaucoup avec eux dans le cadre des séminaires pour leur montrer tout un tas d'éléments intéressants à discuter avec les élèves qui pour nous, on pense, ont deux vertus. Une vertu un petit peu pour attirer les élèves, parce que la sécurité, bon, faut le dire, c'est sexy, ça intéresse les élèves, ça permet de les garder éveillés. Et l'autre vertu de Cyberédu, selon nous, c'est que pour comprendre la sécurité, on est obligé de comprendre comment fonctionnent les choses. Et donc ça leur permet aussi, non seulement de comprendre la sécurité, mais même de mieux comprendre le sujet sur lequel ils travaillaient avant.
C'est pas un peu risqué ça, d'expliquer à des jeunes qu'on peut voler des mots de passe en lançant TCP dump?
Alors effectivement, on peut considérer que c'est dangereux, mais c'est pour ça que, et on l'a vu très vite dans les séminaires qu'on a organisés, on a ajouté des éléments où on parle de droit. Parce que ça, c'est une des choses aussi qu'on essaye d'expliquer aux gens, et c'est une question que les professeurs, les enseignants nous ont très vite posée, c'est mais qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là? Et donc, oui, c'est évident qu'il faut un aspect réglementaire, les aspects légaux qui soient abordés pour expliquer effectivement ce qu'on encourt lorsque on mène une attaque dans la vraie vie. Voilà. Faire un lancer de CPDM sur sa machine dans le cadre d'un TP, c'est une chose. Le faire dans le cybercafé du coin, c'en est une autre.
Alors Cyberédu, c'est une initiative qui a été lancée par l'ANSSI.
Oui, donc c'est une démarche maintenant qui a à peu près 3 ans. Donc il y a eu tout un tas de choses qui ont été démarrées il y a environ 3 ans. Les 3 axes dont j'ai parlé, je vais parler du premier de ces axes qui étaient de commander un certain nombre de supports de cours à destination des enseignants. Donc ça s'est fait à travers un marché public qui a été notifié en 2014 à l'Université européenne de Bretagne et à Orange. pour obtenir des supports pédagogiques.
Mais il y avait plein de formations qui existaient. Enfin, on va pas trop citer de marques, mais pourquoi créer des supports de cours spécifiques alors qu'il y a des formations professionnelles diverses et variées?
Ah oui, mais là, c'est pour créer des supports de cours qui peuvent être utilisés et intégrés dans les enseignements de tout le monde, de toutes les universités, de toutes les écoles. Donc là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fabrique ces supports de cours en les donnant à tout le monde.
Voilà, encore une fois, là, l'objectif, c'était effectivement non pas de former des spécialistes, mais bien de s'adresser à l'ensemble des informaticiens qu'on veut former, et surtout aux non-spécialistes. Voilà. Et l'idée aussi qu'on a eue à travers CyberEDU, c'est que comme on souhaite s'adresser à un public gigantesque, parce que là on parle quand même de tout un tas de formations du supérieur en informatique, c'est pour ça qu'on s'est adressé aux professeurs, aux enseignants. L'objectif, c'était vraiment de démultiplier notre effort en s'adressant aux enseignants, en leur fournissant des supports de cours, en les accompagnant, en discutant avec eux lors de nos séminaires qu'on a organisés, et ce qui permettait d'atteindre, in fine, l'ensemble des étudiants sans être capable, nous, directement, de leur parler. Donc, l'objectif de CyberEDU, c'est de s'adresser aux informaticiens non spécialistes en sécurité.
Et notamment aux futurs programmeurs à programmer correctement.
C'est ça. Les futurs programmeurs, les futurs administrateurs système, les administrateurs réseau, etc.
Tu sais que c'est une initiative qu'on avait eue en 91. Et malheureusement, on avait échoué, c'est-à-dire qu'on avait réussi à intégrer les bonnes pratiques de programmation dans trois écoles, et à Subtelecom Paris, je me souviens, trois ans après, cette partie-là des cours avait disparu, ça n'intéressait pas les profs, etc. Et donc, il va falloir faire preuve de beaucoup de persévérance hein, pour que ces supports soient toujours consciencieusement utilisés d'année en année dans tous les enseignements.
Tout à fait, et c'est une des raisons pour laquelle on sait que l'ANSSI seul ne peut pas réussir ce défi, parce que, encore une fois, il y a énormément de formations, et il faut que les enseignants adhèrent à ce projet. Il faut que les enseignants s'intéressent à la démarche et qu'on les aide, c'est-à-dire que les spécialistes en sécurité, nous les aidions à travers des supports, à travers des discussions. Et ça sera l'objet de l'association dont on va parler un petit peu plus tard.
Alors justement, maintenant, c'est une association, CyberEDU.
Alors, depuis, donc, si je reprends un petit peu le fil du marché, le marché a été notifié en 2014, a donné lieu à un certain nombre de supports pédagogiques, donc qui ont été mis en ligne dès septembre 2015 sur le site de l'ANSSI. Il y en a un certain nombre qui a été
librement téléchargeable, tu peux le préciser. C'est entièrement gratuit, accès au format d'origine, c'est pas du PDF.
Alors il y a du PDF et du PowerPoint. Il y a du PDF et du PowerPoint. Et aujourd'hui, tout est disponible sur le site de l'agence. Alors le point tech n'est pas disponible pour les documents, mais il le sera à travers l'association. Et aujourd'hui, on n'a pas effectivement souhaité le mettre en ligne sur le site de l'ANSSI, mais évidemment, on est ouvert à les échanger. Et donc ces supports-là, c'est des choses qui ont été réalisées dans le cadre du marché. Le marché a pris fin. Début 2016. Donc ça, c'est une des premières actions qui touchait à sa fin. En parallèle, je l'ai dit, on a fait des colloques. Donc on a organisé au centre de formation à Paris 4 sessions de ce colloque CyberEDU en novembre 2014, mai 2015, novembre 2015, mai 2016. Et ça nous a permis de voir plus d'une centaine d'enseignants venus de toute la France dans le cadre d'un séminaire qui durait 3 jours. Donc on discutait de la démarche, on parlait de système, de réseau, de développement, de cryptographie, mais on abordait aussi les aspects juridiques et on donnait quelques éléments de retour d'expérience de ce que certains enseignants avaient joué dans leur formation. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2016, donc jusqu'à cette année, et effectivement, comme je le disais, on a souhaité pérenniser cette action via une association parce qu'on sait que pour que la sauce prenne durablement, il faut que les enseignants soient partie prenante. Et donc ça, c'est l'objet de l'association CyberEDU, dont l'Assemblée Générale Constitutive a eu lieu le 17 mai dernier.
Et quelle est la mission de cette association? Est-ce qu'elle a un pouvoir de contrôle et de sanction, par exemple, sur les cursus? Est-ce que les cursus sont labellisés d'une manière ou d'une autre s'ils intègrent la production de CyberEDU?
Alors oui, on va pas en parler dans un instant, mais avant je voudrais juste préciser quelque chose, ça a été l'objet vraiment de la démarche depuis le début, c'est de faire adhérer les enseignants. Donc on va pas parler de sanctions, on va pas parler d'obligation, tout simplement parce que c'est pas à l'ANSSI de décider quels sont les programmes qui sont donnés dans l'ensemble des formations en informatique en France. Ce n'est pas non plus une association. Et donc là on est vraiment dans une démarche, on veut que les gens adhèrent. Et on va avoir plusieurs choses qui vont être réalisées par cette association. La première chose, eh bien, c'est de faire vivre les supports, donc c'est-à-dire les maintenir, puisqu'il y a parmi les supports des modules de présentation PowerPoint qui sont librement réutilisables. Et on sait bien que les exemples qui sont dedans nécessiteront sans doute d'être remis à jour dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait que l'association effectivement prenne en charge. Donc, je parle toujours de l'association, on va quand même rester dedans, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, on parlera un petit peu de qui aujourd'hui participe à l'association. Donc il y a cette première mission de l'association qui est de maintenir les supports, les faire évoluer et peut-être en proposer de nouveaux dans le temps. La deuxième action qu'on espère que cette association va faire, c'est de maintenir encore une fois, c'est-à-dire de porter les colloques qu'on a initiés au CFSSI, donc au centre de formation à Paris, partout en France. Parce que ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est une limite de notre modèle, hein, qui est clairement une limite du centre de formation de l'ANSSI, c'est que on sait faire des choses à Paris, mais c'est difficile de l'exporter. On pense qu'avec une association, on arrivera à faire en sorte que ces colloques puissent être réalisés dans toute la France. Et puis, tu as parlé de label, c'est un objectif aussi. On aimerait que la marque CyberEdu et le logo qui sont associés puissent être utilisés par l'association, pour que cette association puisse délivrer une autorisation d'utiliser le label. Et cette autorisation, elle serait obtenue par la signature d'une charte et des engagements à dire nous, centre de formation ou nous, formation universitaire, nous cherchons à faire du cyberédu et nous appliquons les éléments qui sont là, nous utilisons les supports, etc.
Mais comment vous contrôlez le prof qui utilise les supports, qu'il a quand même le bon discours sur le support?
Alors ça, c'est une question effectivement qui est compliquée. On peut pas le maîtriser, on peut pas dire être sûr que le prof fait bien son travail. Mais je vais être optimiste, puisque les gens qu'on a vus dans le cadre des colloques, on leur a pas appris qu'on pouvait changer le REST MAC, on leur a pas appris ce que c'était un buffer overflow. Ces gens-là connaissaient. Peut-être qu'ils ne pensaient pas à l'utiliser dans leur cours, peut-être qu'ils estimaient que c'était pas le ressort de leur cours.
Mais c'était surtout pas au programme.
C'était pas au programme, mais ils savaient de quoi ils parlaient. Donc ça, c'était quelque chose quand même qui était finalement quand même une bonne nouvelle. Ils connaissaient le sujet. Et heureusement, c'est quand même ça qu'on attend d'eux. Donc on peut espérer effectivement reposer sur ces enseignants pour utiliser ça. Après, nous, on fournit des supports. Alors, au niveau licence, l'idée, c'est que ces supports soient un petit peu tout prêts. Donc c'est des PowerPoint qu'on peut librement réutiliser et construire un cours assez facilement autour. Mais au niveau master, en gros, plutôt voilà, M1, M2, on est plutôt dans une démarche où on incite l'enseignant à tisser les contenus. C'est-à-dire, il va parler à un moment d'administration réseau, et bien il va parler de la RESMAC, il va parler de développement, il va parler à un moment de malloc, hop, on va parler des buffer overflow. C'est plus d'amener l'enseignant à travers des fiches pédagogiques à se poser la question de quoi peut-il parler en sécurité à ce moment-là de son cours.
Alors comment ça se passe avec justement le ministère de l'Éducation nationale, parce que pour les enseignants qui viennent assister au colloque qui dure plusieurs jours, qui viennent de province, il y a des frais, ils y passent du temps.
Oh bah là, t'inquiète pas, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on a les budgets et le temps pour se déplacer à Paris. Hein.
Mais tu n'as pas besoin d'autorisation, de validation
Tu sais, quand ils font des... Enfin, moi j'ai vécu les réunions, tu sais, dans les projets pour glaner des subventions, ça marche, hein.
Mais ça rapporte de l'argent, c'est pas des gens qui vont passer combien 3 jours de formation, c'est ça, oui. À Paris.
Alors, écoute, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils arrivent à le faire. Alors, peut-être que ce sont les plus motivés qui arrivent à le faire, c'est sans doute le cas, mais c'est possible de le faire. Et effectivement, notre objectif, c'est de ne pas imposer aux gens qui veulent s'intéresser à la démarche CyberEdu de devoir venir à Paris. C'est pour ça qu'on aimerait bien proposer des colloques dans toute la France. C'est vraiment un objectif de l'association.
Et comment on voit la liste? Est-ce qu'il y a la liste? J'ai pas vu sur le site. Est-ce qu'il y a la liste de tous les enseignements qui ont d'ores et déjà adopté les supports CyberEdu?
Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on avait envisagé de faire nous ANSSI lors du projet, et on a plutôt choisi quand on a créé l'association de laisser ce travail à l'association parce qu'on voulait pas brouiller les pistes et dire c'est l'association qui va diffuser cette information-là. Et donc on a besoin aussi d'avoir une charte qui explique quels sont les engagements de l'association et les engagements des organismes de formation. En gros, les organismes de formation disent nous faisons du cyberédu, nous utilisons tel type de support pour tel type de formation, et en échange, l'association s'engage à publier l'information que telle formation respecte bien cyberédu. Donc c'est de l'autodéclaration qui est finalement un engagement formalisé par une charte, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire finalement dans le temps imparti avant la création de l'association à l'ANSSI, et on s'est dit que c'est quelque chose finalement qui avait tout son toute sa raison d'être dans le cadre de l'association, et on a préféré finalement donner aussi ce pouvoir à l'association pour voilà, le but c'est pas de faire une association qui soit une coquille vide. L'association doit avoir un pouvoir, et c'est à elle de mener cette action dans le temps de manière durable.
Je suis sur le site cyberedu.fr, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais GG pour le logo en ASCII art dans les commentaires HTML.
Voilà, donc bon, voilà, très bien. Ben ça, c'est Jean-Sylvain. Hein, on peut le remercier. Alors, Jean-Sylvain, il est à côté de moi. Il a pas de micro, mais c'est un petit peu lui, les petites mains de Cyberedu. Hein, c'est lui qui a été chef de projet dessus depuis 2013 en fait.
Donc Jean-Sylvain Chavanne, hein, pour nos auditeurs, félicitations.
Surtout pour tes talents en ASCII art.
Non, pour ses talents de chef de projet.
Alors, quelle est la différence entre Cyberedu et SecNumEdu ?
Alors, ça, c'est une question qu'on a entendue un petit peu ces derniers temps, parce que Cyberedu, je vous l'ai dit, c'est une démarche dont l'objectif est de sensibiliser, d'initier à la sécurité tous les informaticiens de demain. Donc, on s'adresse avec Cyberedu à des non-spécialistes en sécurité. À l'inverse, depuis maintenant quelques mois, nous travaillons à l'ANSSI sur un label pour labelliser les formations de spécialistes en sécurité. Donc là, on est vraiment dans deux domaines différents. Le premier dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est Cyberedu, donc qui va éventuellement, qui va dans quelques temps donner lieu à un label sur une autodéclaration. Et de l'autre côté, on a ce nouveau label qu'on est en train de créer pour les formations spécialisées en sécurité. Et ce label aura pour nom SecNumEdu. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs différences quand même entre le label Cyberedu tel qu'il existera et le label SecNumEdu. Bon, déjà, on ne parle pas des mêmes formations, comme je l'ai dit. Et d'autre part, Cyberedu sera quelque chose d'assez léger sur l'autodéclaration, et ça sera un label fourni par une association. Alors que de l'autre côté, SecNumEdu, ça c'est un label qui va être un label ANSSI, donc destiné aux formations de spécialistes en sécurité du numérique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quelque chose qu'on nous demande à nous ANSSI depuis un certain temps, notamment les employeurs, les industriels, qui se disent que ça serait bien de savoir un petit peu quelles sont les formations qui préparent les étudiants à la sécurité du numérique.
SecNumEdu, c'est vous qui vous en occupez aussi, ou c'est une entité complètement différente ?
Alors SecNumEdu, c'est un label qui va être délivré par l'ANSSI, qui va rester délivré par l'ANSSI, et c'est le centre de formation qui traite ce label.
Mais ce que je veux dire, c'est que toi, Olivier, tu peux en parler, ou c'est des gens différents qui travaillent sur le sujet et t'as pas l'information ?
Alors c'est des gens dans le centre de formation, alors c'est pas moi, parce que moi je suis chef, donc je fais rien moi, mais c'est Pascal Chour, donc qui est revenu à l'ANSSI récemment, qui pilote ce projet.
Et que l'on félicite chaleureusement.
Parce que moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est est-ce que SecNumEdu, ce sera basé sur les mêmes supports de cours, ou est-ce que les critères d'attribution du label seront complètement différents, et ce sera aux professionnels de venir avec leur support et de les faire valider par l'ANSSI.
Ah, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. SecNumEdu, c'est pour les professionnels, futurs professionnels de la sécurité. On est quand même dans une catégorie différente.
Oui, d'accord, mais t'as quand même des supports de cours, des formations, ah ben,
chacun fait
cursus,
pour
etc.
Moi.
Et sur quelle base est validé ? Est-ce que le corpus Cyberedu doit nécessairement être inclus dans le corpus SecNumEdu, ou est-ce que c'est complètement différent parce qu'une formation de CIL ou de DPO entièrement juridique va être éligible à SecNumEdu, par exemple?
Donc SecNumEdu, ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est pas un programme qu'on impose ou des supports qu'on propose d'intégrer, et ça n'est pas non plus des programmes que l'on valide au sens où on va regarder tout ce qui est présenté par les différents organismes de formation. SecNumEdu a deux objectifs. Le premier, c'est de proposer des critères, enfin, je veux dire, de délivrer le label qui a des formations qui parlent de sécurité numérique avec tout un tas de critères formels assez simples finalement. Donc c'est pas une sélection extrêmement rude qui va se faire à ce niveau-là, puisque en fait il y a un deuxième objectif à SecNumEdu, une fois qu'on a un petit peu sélectionné les formations qui parlent de sécurité numérique, c'est de fournir une vision homogène des formations. L'objectif de SecNumEdu, c'est que les gens remplissent un dossier, amènent des éléments de preuve, donc certaines vont servir de critères pour savoir si on labellise ou pas. Et il y a tout un tas de critères dans le dossier qui est d'ailleurs disponible sur le site de l'ANSSI qui sont là dans le but d'être publiés. C'est-à-dire qu'in fine, on souhaite que un employeur ou un étudiant qui s'intéresse à une formation puisse savoir de quoi on parle et quelles sont finalement les choses qui sont faites dans telle ou telle formation. Et encore une fois, l'objectif, c'est de publier ces éléments du dossier d'une manière homogène pour que les gens puissent comparer selon une nomenclature qui va être standardisée.
Tu as dit organisme de formation. On est d'accord que ça s'adresse aux écoles et universités qui délivrent des enseignements en cycle initial.
Alors aujourd'hui, SecNumEdu, le choix qui a été fait pour la première année, donc on a quand même été assez vite, hein, on a essayé d'aller assez vite sur le sujet, on s'est restreint à un certain nombre de formations éligibles que sont les formations universitaires qui délivrent un grade de licence ou de master, les formations d'ingénieurs, reconnus par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, et les masters spécialisés, donc qui sont reconnus par la CGE, la Conférence des grandes écoles. C'est un choix qui a fait débat et dont on sait qu'il faudra sans doute rediscuter si le label fonctionne bien là, à partir de septembre, lorsqu'on va avoir les premières demandes.
Rediscuter dans quel sens ? Au sens l'étendre à des écoles qui sortent de cette liste, genre école 42, ou l'étendre à des choses complètement différentes, comme de la formation continue.
Alors, aujourd'hui, on s'interdit rien, mais on sait aussi qu'on a des moyens limités. Et on sait aussi que si on souhaite que le label reste, on va dire, gratuit, parce que c'est un des objectifs qu'on se fixe, ça veut dire quand même qu'on peut pas demander à notre cher Pascal de traiter 25 000 dossiers par an. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a cherché un périmètre qu'on connaissait, qu'on comprenait, qui sont les formations que j'ai citées. Après, on sait qu'il y a un intérêt à d'autres types de formations, notamment les formations inscrites au registre national de la certification professionnelle, le RNCP, et puis il peut y en avoir d'autres. Donc effectivement, je parle beaucoup de formations longues, parce que c'est des formations sur lesquelles, malgré tout, on arrivera à peu près à avoir une idée de ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que c'est des objets qu'on sait identifier, pour parler simplement, alors que la formation continue, qu'on n'exclut pas aujourd'hui, mais qu'on ne saurait pas faire à court terme, ça recouvre tout un tas de formations, de formats et de contenus extrêmement variés. Là où une licence, on sait ce que c'est. Un titre d'ingénieur, on sait ce que c'est. Après, on a beaucoup parlé de SecNumEdu quand même.
Oui, mais je pense que c'est vraiment important de parler des deux parce que comme les annonces en plus sont à peu près concomitantes, dans l'esprit des gens, c'est pas tout à fait clair, quoi. Sauf pour les gens qui s'intéressent à l'actualité de l'ANSSI de très près, mais dans le grand public, comme les annonces étaient presque sont arrivées dans le même mois, je pense que les gens ont fait la confusion.
Alors, est-ce que l'ANSSI reste dans l'association CyberEdu ?
L'objectif de l'association CyberEdu, je l'ai dit, c'est de pérenniser notre action. Parce qu'on sait que on peut pas, nous, ANSSI, continuer seul à proposer des contenus, à faire des colloques, et que c'est pas pertinent parce que ça serait souvent à Paris. Néanmoins, on continue d'avoir un intérêt, évidemment, sur le sujet, puisque sensibiliser, initier les informaticiens de demain, c'est extrêmement important pour nous et pour la sécurité du numérique. Et donc oui, l'ANSSI souhaite continuer à participer aux travaux. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se matérialise ? Eh bien, je suis secrétaire adjoint de l'association. Bon. Et d'autre part, on a choisi de garder encore un colloque au CFSSI en mai 2017. Après, on verra. Au-delà, on verra, parce que si l'association reprend le flambeau là-dessus, de toute façon, ça sera beaucoup plus pertinent que on fasse ces colloques disséminés dans toute la France.
Ouais, ça suppose quand même un financement, parce que pour avoir des salles, pour avoir du café, des croissants, etc., il y a un minimum d'investissement. Si vous voulez une salle en région, ça va pas forcément être facile, aussi facile que d'avoir une salle à la Tour Maubourg.
Ouais, quand même, dans les écoles, c'est pas les salles qui manquent.
Effectivement, on compte un peu là-dessus.
Il y a une pression sur les salles. Quand tu vois sur l'organisation d'une conférence rennaise, Il y a une pression sur les salles qui est pas négligeable. Hein.
Bon, je reconnais que moi j'ai vu une pression sur le café. Hein, et maintenant le café est payant partout. Enfin, chez moi il est offert.
Alors effectivement, voilà,
la nourriture.
La salle me fait pas trop peur. C'est pas la salle qui m'inquiète le plus du point de vue du financement des colloques dans toute la France, parce que oui, les salles de cours sont évidemment prises pendant les cours, mais pendant les périodes de cours, mais également les vacances. Et on peut parfois quand même réunir des enseignants motivés pour discuter en dehors des heures de cours, en dehors des périodes scolaires. Donc la salle me fait pas trop peur. Après, il y a la question, comment est-ce qu'on incite les intervenants à partager? Donc voilà, on compte faire appel aux bonnes volontés des gens qui voient dans CyberEDU quelque chose d'intéressant. Donc on en a déjà, alors il y en a chez nous, il y en a d'autres qu'on a rencontrés, que ce soit dans le cadre du marché CyberEDU ou dans le cadre des contacts qu'on a dans différents endroits. Donc on sait qu'on trouvera quand même quelques bonnes volontés. Il faudra quand même trouver un moyen peut-être de payer une mission, il faudra trouver un moyen de payer le café. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui va être discuté assez rapidement dans l'association, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on organise ce budget et qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, des séminaires d'une journée, deux journées, trois journées. Voilà. Évidemment, ça, c'est jeune. Donc, il y aura des questions dessous. J'espère qu'elles ne seront pas les seules qu'on se posera, puisqu'on a quand même beaucoup de choses à raconter autour de CyberEDU. Et encore une fois, on l'a rencontré dans les colloques que nous, on a menés. Il y a un intérêt de la part non seulement des enseignants non spécialistes que le sujet intéresse, alors peut-être pas tous, hein, on en a vu une partie qui était intéressée, c'était les motivés, ceux qui sont venus jusqu'à Paris, mais également de la part des enseignants en sécurité du numérique, donc les spécialistes, qui eux aussi souvent ont quand même répondu à l'appel, que ce soit à l'ANSSI ou ailleurs, et voient dans cette démarche quelque chose d'utile pour demain, parce que encore une fois, un spécialiste en sécurité, c'est bien, mais s'il doit se battre contre 100 développeurs et 100 administrateurs qui font n'importe quoi, il va être très limité dans son action.
Alors, est-ce que CyberEDU va rester, on va dire, cantonné à l'enseignement supérieur, ou est-ce que vous souhaitez, par exemple, aller également sur de l'enseignement secondaire?
Alors ça, c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois déjà. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire sur CyberEDU, on va marcher avant de courir et on va commencer par un périmètre qu'on arrive à délimiter, sur lequel on sait faire des choses. Donc ça a bien marché jusqu'à présent, on est content, on a réussi à avoir des enseignants, plus d'une centaine chez nous, on a réussi à produire des documents, ils sont publiés, et la question maintenant effectivement se pose. Maintenant que ça marche, est-ce qu'on peut pas aller un peu au-delà? Pourquoi? Parce que il y a deux directions assez naturelles. C'est une, peut-être qu'il faut se poser la question du secondaire. Est-ce qu'on peut commencer à proposer des contenus, proposer des animations, des choses, quelque chose qui soit réutilisable librement par les enseignants du secondaire? Et l'autre axe qui, pour le coup, nous a été souvent soufflé, c'est parler aussi aux gens qui utilisent l'informatique, pas seulement aux informaticiens, puisqu'en fait, tout le monde aujourd'hui utilise l'informatique, et il y a peut-être des choses à faire aussi là-dessus que l'association pourrait faire, puisque dans les modules qui sont actuellement publiés, c'est-à-dire les modules qui sont destinés au niveau licence 2, licence 3, il y en a certains qui sont assez ouverts et assez finalement génériques pour servir déjà d'introduction à ce que c'est que la sécurité du numérique, y compris dans des formations non spécialisées en informatique.
Ouais, moi je pense que c'est cet aspect le plus important, c'est intégrer cette sensibilisation dans les formations qui sont pas pour les informaticiens.
On est d'accord, mais j'ai tendance à penser qu'il faut aussi que les informaticiens soient formés avant, et parce que justement ils vont nous servir de relais.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'était plus utile que pour moi que le secondaire. Après, il y a déjà le passeport internet, etc. Mais bon, le secondaire, ouais, c'est vrai, il faut éduquer les jeunes à utiliser correctement les réseaux sociaux.
Moi, j'ai quand même une question sur l'origine de la démarche. Qu'est-ce qui a poussé l'ANSSI à faire ça? Est-ce que c'est parce que le niveau baisse, ou est-ce que c'est parce que, enfin?
Ah non, bah pour moi, c'est du bon sens. L'origine de la démarche, dans un groupe de travail qui était à l'AFSET à la fin des années 80, on a eu cette même démarche. On l'a lancée en 90, et ça a donné en 91 trois masters, les trois premiers masters sécurité, et ça a donné aussi, là, on ciblait que les développeurs, que les programmeurs. Ça a donné aussi l'intégration dans les plusieurs écoles d'ingénieurs. Alors moi, j'avais suivi à Subtelecom Paris, mais il y en avait d'autres, l'intégration des bonnes pratiques de programmation ajoutées dans les cours des profs de programmation. Et donc, c'est logique, parce qu'il faut prendre le mal à la racine, et donc c'est la sensibilisation dès que les gens apprennent les choses qui fait la différence. Alors, donc c'est normal, enfin moi j'ai complètement salué cette reprise avec beaucoup plus de moyens et d'énergie par la NSSI, c'est plus de, je sais pas combien d'années plus tard, enfin X années plus tard, c'est pour moi c'est la logique, cette initiative.
Oui, il y a du bon sens, et puis l'élément déclencheur, c'est une petite phrase qui était dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2013, indiquant qu'il fallait introduire les notions de cybersécurité dans l'ensemble des formations d'informatique en France. Donc ça, ça a été finalement la concrétisation de cette idée de bon sens dans un texte pour finalement justifier la démarche qui a été ensuite lancée à l'ANSSI depuis 3 ans.
Il faut retrouver l'auteur de la phrase et le féliciter.
Très bien. Bien, Olivier, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.